France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Prohibé en France depuis le milieu des années 60, longtemps diabolisé, les psychédéliques sont à nouveau considérés dans le champ de la recherche médicale. Depuis 2024, les champignons hallucinogènes, le LSD ou la MDMA sont utilisés lors d'essais cliniques. Les études récentes démontrent une grande efficacité de leur utilisation face notamment à la dépression, à l'anxiété, à la dépendance au tabac ou à l'alcool. Et alors qu'en France, une personne sur quatre souffrira d'un trouble mental au cours de sa vie, les médecines psychédéliques constituent-elles un nouvel espoir pour le soin et notamment pour la psychiatrie? Ces substances sont-elles plus efficaces que des médicaments déjà disponibles? Quels risques comportent-ils? Deux invités pour en débattre ce soir, Lucie Berkovitch. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être ici. Vous êtes psychiatre, chercheuse en neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Face à vous, Vincent Verroust. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire des sciences, chercheur postdoctoral à l'INSERM et président de la Société psychédélique française. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
LSD, champignons hallucinogènes pour pallier à la dépression et puis au final on se retrouve à en prendre de plus en plus.
Non, pour moi ça n'est pas une solution ça.
J'en ai fait l'expérience, c'est pas la plus chouette des choses à faire.
Certainement pas.
Oui, alors moi j'associe ça plutôt à la dépendance plus qu'à la dépression.
Ça crée forcément de la dépendance, ça c'est sûr à 100%.
Moi je trouve que c'est surtout des substances qui font plus penser au monde de la fête et de la nuit.
Il y a des effets secondaires, par exemple la libido.
On ne peut pas développer une dépendance à des antidépresseurs.
C'est des drogues.
Ouais.
Je pense pas que ça aide.
Non ?
Non.
Des réactions dubitatives dans ce studio à l'écoute de ce micro-trottoir. On a entendu les mots de dépendance, de peur, d'effets secondaires. Comment expliquez-vous que le chemin, le hiatus soit si grand entre la perception que nous avons des psychédéliques, perçus d'abord comme des drogues récréatives, et leur potentiel, la réalité de ce qu'elles permettent parfois dans le champ thérapeutique? Lucie Berkovitch, pour commencer.
Ce sont d'abord des substances qui ont un héritage assez lourd, puisqu'elles sont marquées par toute une histoire autour de leur usage et autour aussi de la prohibition. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes, en effet, qui sont associés à ces produits. Puis il y a une méconnaissance des données de la science, qui aujourd'hui sont assez claires. Alors il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais...
De ce que la science a démontré, vous voulez dire?
Oui, tout à fait.
Et votre point de vue, Vincent Verroust, comment est-ce que vous expliquez aussi cette différence entre l'imaginaire qui entoure les psychédéliques d'une part et leur réalité thérapeutique d'autre part?
Eh bien, effectivement, c'est leur classement sur la liste des stupéfiants en France et d'une façon plus générale sur le tableau 1 des substances psychotropes dans les conventions des Nations Unies qui classent la psilocybine, donc le principe actif des champignons hallucinogènes ou LSD et d'autres drogues, comme des substances à fort potentiel d'abus et sans intérêt médical reconnu, et ce qui est faux.
Donc les conventions internationales, la loi française en l'occurrence, dit le faux dans ce domaine?
Je crois, et je me tourne vers Lucie Berkovitch, qui le confirmera certainement, il n'y a pas de dépendance à ces substances. On n'a jamais observé de consommation compulsive, de dépendance. Au contraire, ce sont des substances qui semblent pouvoir aider à combattre les dépendances. Et d'autre part, les usages médicaux sont maintenant très bien documentés. Ils étaient d'ailleurs assez bien documenté aussi à l'époque de leur prohibition.
Pas de dépendance aux champignons hallucinogènes, à la MDMA, au LSD, Lucie Berkovitch, c'est une fausse idée?
Disons que il y a, je pense aussi un problème de vocabulaire, c'est-à-dire que sous le terme de drogue, on met en fait plein de substances qui ont des propriétés très différentes, qui agissent de manière très différente sur le cerveau, sur le corps, et en effet qui entraînent des addictions plus ou moins. Pour beaucoup de drogues, c'est le cas. Pour les psychédéliques, je rejoins Vincent Verroust, il n'y a pas de consommation compulsive, il n'y a pas de syndrome de manque. Donc c'est des substances qui ont certes des effets forts sur l'esprit, sur le cerveau, on va y revenir, je pense, mais qui n'ont pas pas cette, cette tendance à créer chez les gens des addictions.
Donc les Français qu'on a entendus qui répètent le mot dépendance, d'ailleurs c'est ce que je pensais moi aussi avant de préparer cette émission, hein, j'imaginais que c'était des substances éminemment liées à un fort taux de dépendance, ça c'est faux donc Vincent Verroust, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que vous avez cité la MDMA et qu'il n'y a pas un consensus très clair sur ce que ça veut dire psychédélique. Je pense, Lucie comme moi, on s'intéresse plus particulièrement aux psychédéliques classiques, c'est-à-dire à des substances qui ont en commun un certain mode d'action sur le cerveau, en l'occurrence une action sur un récepteur bien précis de la sérotonine, ce neurotransmetteur fondamental. Et la MDMA a un mode d'action tout à fait différent et je pense qu'il serait plus rigoureux d'en parler différemment, y compris sur des questions de dépendance et de dangerosité.
Alors revenons justement à ces enjeux de définition, Lucie Berkovitch. Comment est-ce que vous définissez les psychédéliques d'abord, l'expérience psychédélique ensuite?
Alors les psychédéliques, c'est effectivement cet ensemble de substances qui agit sur ce récepteur à la sérotonine 5-HT2A. Donc c'est vraiment un mécanisme pharmacologique d'abord qui est commun. Et il se trouve que l'activation de ce récepteur va déclencher chez le sujet une expérience bien particulière qui est caractérisée par des modifications de la perception, avec souvent des perceptions de couleurs plus intenses, de mouvements dans les choses inanimées, avec des visions de volutes, de formes géométriques, de fractales. Souvent une expérience qui est qualifiée d'ailleurs de très esthétique par les usagers. Des modifications émotionnelles aussi, avec souvent un sentiment de bien-être. Il peut y avoir aussi des ressentis un peu plus anxieux hein, quand on n'est pas préparé ou quand on peut être un peu surpris par rapport à ce qui se produit. Et puis des choses plus intenses, notamment la sensation de se fondre dans l'environnement ou de vivre des expériences plus transcendantales ou à caractéristiques mystiques.
Un témoignage, celui d'Andreas, il est issu d'un documentaire intitulé « Les psychédéliques, des drogues qui soignent ?», point d'interrogation, un documentaire qui est apparu en 2020.
Tout a commencé un peu avant qu'on perde notre fille. Ça faisait plus de 5 ans qu'on s'occupait d'elle, 24 heures sur 24. Elle ne pouvait ni bouger ni parler. J'avais l'impression d'être derrière une paroi de verre. Comme si je ne pouvais pas communiquer avec les autres. Ça m'a mis dans un état où j'étais incapable d'éprouver les sensations ou les sentiments qui donnaient un sens à ce que je faisais. J'ai fini par me résoudre à essayer autre chose que la psychothérapie ou les médicaments. Quand j'ai entendu parler de cette étude, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer quelque chose de complètement différent. Ce qui m'a le plus marqué hier, c'est le changement brusque de perspective. J'ai ressenti soudain cette impression d'enfermement, qui était celle de mon enfant emprisonné dans sa maladie. Sauf que là, c'était moi qui étais piégé, comme si j'avais toujours grandi dans cette réalité. Mon problème maintenant, c'est d'intégrer cette nouveauté à mon quotidien. Parce que concrètement, le monde qui m'entoure, lui, n'a pas changé.
On entend Vincent Verroust, cet homme, expliquer avoir été enfermé un temps dans un état de dépression extrêmement avancé. Il a tenté la psychothérapie, il a tenté les médicaments. Ce qui semble l'avoir sauvé en partie, du moins si l'on en croit son témoignage, c'est le recours aux psychédéliques. Alors, qu'est-ce que la science démontre dans ce domaine, ce lien entre psychédéliques et la lutte contre la dépression ?
Je crois qu'aujourd'hui, la science a montré que la psilocybine est un antidépresseur.
Donc la psilocybine, c'est ce qu'on trouve encore une fois dans les champignons hallucinogènes.
Oui, absolument. Mais avant qu'on montre que la psilocybine est un antidépresseur au moins aussi efficace qu'un antidépresseur couramment prescrit, inhibiteur de recapture de la sérotonine, on avait déjà montré que sur des personnes en bonne santé, la psilocybine augmentait la qualité de vie, la joie de vivre et l'entourage des volontaires sains qui se sont prêtés à ces expériences ont aussi témoigné d'un changement dans le comportement perçu comme positif. Donc il semble que ce soit des substances qui augmentent la joie de vivre, la qualité de vie et certainement des changements comportementaux perçus comme positifs.
Lucie Berkovitch.
Je trouve qu'en tout cas, ce qu'on voit bien dans ce témoignage, c'est effectivement ce qui est appelé le changement de perspective, et c'est souvent ce que décrivent les patients. Peut-être pour compléter, donc l'état actuel de la connaissance, c'est un certain nombre d'essais cliniques qui ont été publiés, donc qui relatent en effet ces effets antidépresseurs qu'on peut tout à fait mesurer en comparaison avec un placebo. On est encore au stade où on cherche à comparer l'efficacité avec des traitements existants, mais la singularité de cette efficacité, c'est aussi qu'elle survient immédiatement après la première prise. Donc en ça, il y a une temporalité qui n'est quand même pas du tout la même que celle des antidépresseurs qui mettent plusieurs semaines à agir après une prise quotidienne. Et puis, on a ces effets qui durent dans le temps. Donc, il semble qu'une prise permette un déblocage qui permette une amélioration. Alors, évidemment, pas chez tous les patients, mais chez quand même une bonne proportion de patients. On estime que c'est entre 30 et 50% des gens qui se retrouvent en rémission, c'est-à-dire qui n'ont plus de symptômes de dépression, après de la psychothérapie associée à une prise de psychédélique, en l'occurrence, dans la plupart des études, en effet, la psilocybine.
Je pensais, avant de préparer cette émission, pour être tout à fait franc, que le recours aux psychédéliques était controversé dans le champ médical, que beaucoup de psychiatres, de médecins s'élevaient contre ces pratiques, que beaucoup pointaient les risques. En réalité, lorsque l'on a fouillé un petit peu avec l'équipe de Questions du Soir, il y a un relatif consensus justement quant aux effets scientifiquement démontrés de ces psychédéliques, Lucie Berkovitch. Là aussi, comment est-ce que vous expliquez que on ne recourt pas plus souvent en France à ces produits, à ces substances?
Il y a d'abord une dimension qui me semble importante, qui est celle de la temporalité de la recherche et de la différence entre la recherche et les soins courants. Il y a en fait tout un temps pendant lequel la recherche permet de faire un certain nombre d'études, et il faut attendre que les résultats soient confirmés maintes et maintes fois avant de pouvoir faire passer un traitement des études aux soins courants. Et en fait, on est à ce moment un peu charnière où effectivement ça ressemble à un paradoxe, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'études qui suggèrent qu'il y a une efficacité. Il y a encore des études en cours, donc je tiens à préciser aussi qu'on a des résultats qui sont en attente et dont on va voir s'ils confirment ou pas cette balance bénéfice-risque favorable, c'est-à-dire le fait qu'il y a des effets bénéfiques au regard de risques qui sont tout à fait modérés et minimes.
Ce qu'on examine de manière générale pour chaque médicament.
Absolument, hein. Absolument. Donc là, on est à ce moment un peu charnière où c'est vrai que c'est un peu étrange, parce qu'on a l'impression que ça marche bien et que c'est pas encore disponible. Mais c'est aussi le temps que prend la recherche pour confirmer ces résultats. Et en effet, au sein de la communauté psychiatrique, la plupart des psychiatres sont très intéressés par ces résultats, sont évidemment très enthousiastes parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de solutions à proposer aux patients, et sont dans l'attente donc que ces résultats puissent être confirmés pour qu'on puisse disposer de ces traitements en soins courants.
Ce qu'il faut expliquer par ailleurs, Vincent Verroux, c'est que la recherche dans ce domaine a longtemps été contrainte. Hein. On redécouvre les psychédéliques dans les années 50, la France les interdit dans les années 60, en 1966 exactement, et au fond, la recherche est presque laissée aux usagers et aux patients durant plusieurs décennies.
Oui, alors effectivement, 1966, la France interdit, enfin classe ces substances sur les stupéfiants. En 1971, ils sont classés sur le tableau 1, malgré les résultats positifs qui s'étaient aussi accumulés durant.
C'est quoi le tableau 1 ?
Alors, pardon, je le mentionnais tout à l'heure, c'est dans la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes. C'est le pire classement pour une molécule, c'est-à-dire celui qui va contraindre le plus son... Enfin, le pire, ça dépend. C'est peut-être une bonne chose pour certaines substances dangereuses et sans intérêt médical. Mais pour le cas des psychédéliques classiques, c'est une place qui ne semble pas être la leur, puisque je rappelle qu'ils ont donc un intérêt médical qui est aujourd'hui relativement bien documenté. Et un très faible potentiel d'abus. Mais je trouve que ça questionne, c'est ce que la société est prête à accepter comme psychotrope, en vérité. Vous parliez d'une forme d'étonnement, et puis d'ailleurs, l'extrait que vous avez passé, c'est des drogues qui soient une point d'interrogation. Je trouve que c'est ce point d'interrogation qui est assez significatif, parce que même dans les années 60, quand la presse parlait du potentiel thérapeutique du LSD, par exemple, on retrouvait toujours cette formulation interrogative. Comment est-ce possible qu'une substance hallucinogène puisse guérir ? Il me semble que c'est ça qui est intéressant. Quel rapport est-ce qu'on entretient, nous, en tant que culture occidentale ou française, avec les différents psychotropes ?
Lucie Berkovitch, on a parlé depuis le début de cette émission de la lutte contre la dépression avant toute chose. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels les psychédéliques peuvent être utiles, notamment les troubles obsessionnels compulsifs. Et vous mettez la lumière sur un domaine en particulier, les soins palliatifs, la toute fin de vie. Pourquoi vous intéressez à ce domaine en particulier ? Quel lien avec les psychédéliques ?
Alors effectivement, presque les premières études de cette nouvelle vague de recherche se sont intéressées à ce qu'on appelle la détresse existentielle dans les contextes de soins palliatifs, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des maladies incurables, des cancers en phase terminale, dont la mort est proche et qui peuvent présenter des symptômes d'angoisse extrêmement vertigineuses à l'aune de cette mort prochaine. Et en effet, il y a des études qui ont montré que chez ces personnes-là, la prise de psychédéliques, et notamment au gré de cette expérience un peu transcendantale, permettait un soulagement chez la majorité des personnes en soins palliatifs. Alors c'est là aussi, c'est plusieurs études, mais qui sont encore en cours de confirmation, si je puis dire. Et mm-hmm. C'est vrai que, en tout cas, là où je trouve que c'est un espace de soins qui est intéressant, c'est que on comprend bien que dans cet espace de soins, la notion de risque est peut-être perçue un peu différemment en comparaison avec d'autres pathologies ou d'autres situations où, d'une part, il y a des traitements alternatifs qui peuvent être déjà disponibles, et où, d'autre part, les jours de la personne ne sont pas comptés. Donc, il y a tout un espace d'usage compassionnel, c'est-à-dire de pouvoir utiliser ces substances même avant l'autorisation de mise sur le marché qu'on obtient, là encore, après de nombreuses études qui ont confirmé une bonne balance bénéfice-risque.
Qu'est-ce qui est permis aujourd'hui en France, Vincent Verroust, avec ces psychédéliques, uniquement des essais cliniques et encore des essais cliniques extrêmement encadrés ?
Oui, extrêmement encadrés à cause du statut stupéfiant de la psilocybine, mais il existe des substances psychédéliques que le législateur n'a pas classées. Alors, pour cela, je ne crois pas qu'il soit interdit de les utiliser.
Vous pensez auxquelles, par exemple ? Informez-nous à ce sujet.
Eh bien, la 5-MeO-DMT n'est pas sur la liste des stupéfiants. Je ne souhaiterais pas que le fait de le dire à l'antenne en direct provoque le classement de cette substance, mais... Le Conseil d'État a donné la définition de ce que c'est qu'un stupéfiant en 2022, donc une substance qui induit une pharmacodépendance et qui présente un risque pour la santé. Il ne semble pas que ce soit le cas des psychédéliques.
Je voudrais vous faire entendre un autre témoignage, celui de Dominique Nora, les journalistes grand reporter au Nouvel Obs, et a signé un livre aux éditions Grasset intitulé « Voyage dans les médecines psychédéliques ».
Il se trouve que j'étais à un moment de ma vie assez déprimée après des deuils familiaux, une séparation, où j'étais convaincue que je ne risquais pas grand-chose, donc je me suis lancée dans l'aventure. Je me suis fait conseiller un psychothérapeute sérieux. Il y a d'abord une séance de préparation où on pose une intention, et ensuite il y a une journée où on prend la molécule, une fois, et on fait le voyage qui dure environ 6 heures. Ça m'a beaucoup réussi, parce que pour moi, c'est comme forcer une introspection, aller dans des zones sombres en fait, de sa psyché qu'on n'ose pas visiter tout seul, même en psychothérapie orale conventionnelle, on va dire. C'est plus le mental qui parle, en fait, c'est le cœur et ce sont les tripes. Et donc, il ressort des émotions, des sensations, des perceptions dont on n'avait pas forcément conscience, ou si on en avait conscience, c'était une conscience mentale et pas une conscience émotionnelle. Et j'ai trouvé ça extrêmement positif. Pour la première fois de ma vie, je me suis aimée. Et à partir du moment où on s'estime et on s'aime, on se demande pourquoi on n'est pas heureux tout le temps et on arrive à résoudre ses problèmes.
Bon, mais tout de même, Lucie Berkovitch, ces substances, ces psychédéliques ne sont pas sans danger aucun. Alors comment les prendre justement avec précision et en étant certain qu'elles auront les effets escomptés ?
C'est une vraie question. Aujourd'hui, on est encore donc en train de caractériser les risques associés à ces substances. Je pense que le risque essentiel, c'est effectivement un mauvais vécu, une mauvaise tolérance de l'expérience psychédélique qui, pour certaines personnes, peut être assez inquiétante, puisqu'il y a ces modifications de la perception qui, on l'a entendu, durent plusieurs heures. Alors, ça dépend un peu des substances, mais pour la psilocybine, c'est 4 à 6 heures. Pour le LSD, c'est 10 à 12 heures. Pour la diméthyltryptamine dont parlait Vincent Verroust, la 5-MeO-DMT, c'est très court, c'est une quinzaine de minutes. Et donc, effectivement, quand ces expériences se prolongent et qu'elles sont inconfortables, ça peut générer beaucoup d'anxiété. C'est pour ça que le cadre dans lequel ces substances sont données au sein des essais cliniques, c'est, on l'a entendu aussi, avec une séance de préparation, c'est-à-dire qu'il y a un thérapeute qui va d'abord expliquer les effets et préparer la personne à pouvoir gérer cette expérience-là, un accompagnement pendant la durée des effets, avec une présence soignante continue, et puis une séance qu'on qualifie d'intégration, c'est-à-dire que après l'administration l'administration, on va reprendre ce qui s'est passé, on va essayer justement de travailler avec un travail psychothérapeutique, ce qui a pu finalement être révélé à l'individu au moment de la prise, et voir comment on peut transformer ça en un changement et quelque chose qui pourra aider la personne dans sa vie quotidienne.
Je vous lis ce que l'on peut lire sur le site de Santé Magazine. Sur le moment, le consommateur qui prend des psychédéliques peut parfois se mettre en danger physiquement. Chez certains consommateurs, une utilisation récurrente peut entraîner un délire paranoïde accompagné de comportements violents. Un consommateur peut par exemple se prendre pour une orange et commencer à s'éplucher la peau. Un autre peut tout d'un coup se prendre pour Superman et sauter de son balcon. Fin de citation. Vincent Verroust, un commentaire quant à ces risques, encore une fois, qu'on a trouvé dans Santé Magazine.
Alors, bon, je pense qu'il vaut mieux regarder les études qui sont publiées dans des revues scientifiques, à un comité de lecture.
C'est pour ça que je voulais vous proposer ces explications.
C'est gentil. Donc, il y a deux grandes études populationnelles qui ont regardé la santé mentale des usagères et des usagers, et sur des grandes populations, de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et apparemment, ils vont bien. Ils vont pas moins bien que des gens qui n'ont jamais consommé de psychédéliques, voire même, ils semblent aller un peu mieux au niveau de la santé mentale.
Mais ça, c'est une chose, mais sans décrédibiliser non plus les personnes qui peuvent être anxieuses ou qui peuvent penser que ces moments ne sont pas des moments de pleine sécurité. Est-ce qu'encore une fois, lorsque des patients prennent des psychédéliques dans le contexte médical que vous décrivez en suivant des protocoles bien institués, est-ce qu'il existe encore une fois des risques? Est-ce que l'expérience peut être mauvaise, néfaste, même sur le plan médical et psychiatrique, Vincent Verroust? Et je vous ferai répondre également Lucie Berkovitch.
Oui, car c'est une question médicale. Je crois qu'elle devrait s'adresser à Lucie Berkovitch en priorité. Mais quand même, on voit bien que dans la population des usagères et des usagers, c'est pas une population qui semble en détresse psychologique. Au contraire, encore une fois, les études populationnelles montrent que non, il semble aller aussi bien, voire mieux que la population générale.
Lucie Berkovitch, sur l'expérience même alors?
Je pense que c'est important de pouvoir quand même refléter la diversité des situations, parce que il y a quand même des gens pour qui ça se passe mal. Il y a quand même des gens qui en effet peuvent se mettre en danger. Alors en particulier quand on n'est pas dans un cadre médical et qu'il n'y a pas tous ces éléments de sécurité qui sont mis en place, parce que c'est vrai que quand on est dans une chambre d'essai thérapeutique en présence soignante continue, il y a assez peu de risques de se mettre en danger immédiat, quoi.
Bon, moi qui n'y connais rien, j'ai quand même envie de vous répondre que même dans une chambre entourée avec un contexte serein, on peut sentir une crise intérieure tout
bien
de
sûr,
même,
on peut
de l'angoisse profonde.
Absolument, on peut se sentir mal, on peut se sentir angoissé, mais le risque de se mettre en danger, il est quand même minime en présence d'un médecin et d'un soignant qui peut appeler du renfort si jamais il y a besoin. Et d'ailleurs aussi de donner des traitements éventuellement de secours si jamais ça ne va pas. Dans le cadre non médical, c'est un peu différent et il y a quand même des gens pour qui ça se passe mal, et je pense que c'est important de le dire, parce que je ne voudrais pas non plus que d'abord qu'on passe sous silence les histoires et qu'on rende inaudibles les gens pour qui ça s'est mal passé et pour qui ça peut être très douloureux. Et d'autre part, qu'on ne souligne pas l'imprévisibilité quand même qui existe. Par contre, ce qui est vrai, et là où je suis tout à fait d'accord avec Vincent, c'est que c'est quelque chose qui est rare. Alors c'est rare et imprévisible, et c'est ça qui est toujours compliqué, parce que quand quelque chose est rare, imprévisible, et que ça peut être potentiellement grave, puisqu'il y a quand même eu des passages à l'acte, y compris des passages à l'acte suicidaire, dans le cadre d'expériences psychédéliques qui se sont mal passées, c'est quand même quelque chose qui existe, bien que ce soit très rare et très très minoritaire. On est obligé d'être nous absolument vigilants.
On a parlé de l'expérience elle-même. Je voudrais vous parler de l'après, en vous livrant encore une fois un extrait de Santé Magazine que je cite. Comme toute substance hallucinogène, ces champignons peuvent aussi creuser des accidents psychiatriques graves et durables. Parfois, dès la première prise, le consommateur ne redescend pas, c'est entre guillemets. On parle alors de syndrome post-hallucinatoire persistant. Il engendre des angoisses, un état confusionnel, un sentiment de dépression, des bouffées délirantes et des hallucinations persistantes. Fin de citation. Lucie Berkovitch, là on est dans l'inverse du soin, si je puis dire, si je suis Santé Magazine encore une fois.
Oui, alors là encore, il y a toujours une difficulté avec des phénomènes qui peuvent être donc graves, mais qui sont rares. Un des paramètres qui permet quand même de prédire, ou en tout cas de limiter ce risque, c'est le fait de connaître les facteurs de vulnérabilité qui peuvent augmenter ce risque, et en particulier la présence d'antécédents, c'est-à-dire d'épisodes préalables chez des individus. Donc les gens qui ont déjà eu des épisodes avec des hallucinations, avec des idées délirantes, sont vraisemblablement plus vulnérables que les autres. Ce qu'on sait aussi, c'est que effectivement, quand il y a des expériences qui se passent mal et qui peuvent entraîner l'apparition ou révéler, c'est toujours difficile de savoir si quelque chose était larvé et ce serait de toute façon manifesté, mais en tout cas des troubles psychiatriques. Moi, ce qui me semble important, c'est de dire que, à nouveau, c'est quelque chose qui est rare, qui est potentiellement grave, qui malheureusement aujourd'hui est encore imprévisible parce qu'on ne sait pas bien anticiper qui va avoir ce genre de problème, et que donc ça reste quelque chose qu'il faut avoir en tête, que pour l'immense majorité des usagers, c'est pas une difficulté, et que donc ce qui me semble aussi important, c'est de proposer une offre de soins en fait aux personnes, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a développé, de proposer des soins d'accompagnement pour les gens qui ont des expériences très difficiles sous psychédéliques, et donc on reçoit des gens dans ces situations-là à l'hôpital Sainte-Anne.
Vincent Verroust.
Je voudrais rappeler quand même que ce regain d'intérêt scientifique et médical sur les psychédéliques ne vient pas de l'intérieur du monde académique, médical, universitaire, mais c'est plutôt la communauté des usagers qui, depuis des décennies, milite pour que la science reprenne.
Ces usagers, alors c'est qui, c'est de qui est composée cette communauté des usagers?
C'est une communauté extrêmement diversifiée, mais comparativement à d'autres communautés d'usagers de substances stupéfiantes, ceux-ci se sont très bien organisés et de façon internationale. Je peux parler de la Société psychédélique française, par exemple, mais de toutes les autres sociétés psychédéliques du monde qui créent des initiatives qui font se rencontrer des philanthropes, des chercheurs, qui montent des fondations. C'est assez réjouissant d'ailleurs, c'est assez étonnant. Là, actuellement, il y a une initiative citoyenne européenne organisée qui s'appelle Psychédélicaire, qui, si on obtient 1 million de signatures, permettra que la question du financement de ces études et surtout de leur statut légal soit discutée au Parlement européen.
Lucie Berkovitch.
Oui, et puis pour compléter, je pense que c'est aussi important de rappeler que l'usage médical, c'est celui du soin, c'est celui donc de la balance bénéfice-risque, et que ça a déjà été dit, mais je veux aussi le redire, que dans les études, quand on fait attention aux antécédents des personnes, il n'y a pas eu de décompensation psychiatrique grave et sévère après des prises de psychédéliques, avec maintenant de nombreuses études publiées.
Est-ce que le regain d'intérêt pour ces psychédéliques vient aussi du fait que, s'agissant des médicaments, s'agissant des antidépresseurs en particulier, la recherche psychiatrique est un peu arrivée au bout? Les chercheurs ont le sentiment d'être parfois dans une impasse, ou du moins que la recherche patine dans ce domaine-là, ou bien simplement ce sont deux histoires parallèles, Lucie Berkovitch?
C'est toujours difficile de savoir le lien entre plusieurs histoires. En tout cas, effectivement, je pense que les moments de patinement, comme vous le dites, sont des opportunités peut-être d'innovation et de proposer ou de voir les choses un peu différemment. Là, ce qui fait qu'il y a un engouement, c'est quand même vraiment à nouveau la temporalité de ces effets sur les maladies psychiatriques, avec cette efficacité qui arrive tout de suite et qui dure dans le temps, ce qui est assez inédit. Je pense la place de la psychothérapie qui est aussi au centre de ces soins-là, et je pense que c'est très intéressant parce que c'est une vraie demande à la fois des patients et des soignants autour des soins psychiatrique. Et en effet, il y a aussi un état des lieux qui est que à la fois la psychiatrie est un peu le parent pauvre de la médecine, et on est en grande difficulté, que les troubles mentaux sont extrêmement fréquents, et que pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de solution avec les traitements actuels, et il y a donc une insatisfaction, soit parce que ça ne fonctionne pas, soit parce qu'il y a des effets secondaires qui sont très gênants pour les personnes concernées.
Vincent Verroust, vous souhaitiez réagir?
Oui, absolument. En fait, je voudrais rappeler que les psychédéliques en psychiatrie, ce n'est pas exactement une innovation. En vérité, le monde savant occidental a commencé à s'intéresser aux psychédéliques à la fin du 19e siècle, avec la découverte de la mescaline, le principe actif du cactus hallucinogène peyote, que dès les années 30, en France, on a imaginé que la mescaline puisse être un médicament contre la dépression, et que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des recherches très poussées dans le monde entier, sur le LSD, sur la psilocybine. Et donc, on redécouvre ça aujourd'hui, mais ce n'est pas une innovation, hein, mais ça montre peut-être la résistance de la culture occidentale à ces expériences extraordinaires. Peuvent-elles soigner ? Ces substances, je le rappelle, sont utilisées par différents peuples amérindiens. Et quand les savants occidentaux ont commencé à voir qu'il y avait des communautés amérindiennes qui faisaient usage du cactus peyote, par exemple, ils ont tout de suite noté des intérêts médicaux, en particulier dans la lutte contre l'addiction à l'alcool. Mais ça, ce n'est pas du tout nouveau, en vérité, hein. Mais ça montre une sorte de frein culturel à l'acceptation d'une expérience hallucinogène, ou en tout cas d'une expérience visionnaire, ou une expérience extraordinaire en tant que traitement potentiel.
Par ailleurs, précisons que l'Australie, le Canada, la Suisse ont d'ores et déjà ouvert la prescription de puissants psychotropes tels que la MDMA, la psilocybine et le LSD. Aux États-Unis, deux États en particulier, l'Oregon et le Colorado, ont récemment légalisé l'usage des champignons hallucinogènes. Même le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., se dit favorable aux champignons hallucinogènes. C'est donc dire, Lucie Berkovitch, qu'est-ce qui bloque alors en France, justement? On est dans une phase d'essai clinique. Ce qui bloque, c'est qu'on attend encore des résultats scientifiques, ou d'autres freins, notamment légaux, financiers, peuvent là aussi représenter des entraves au développement de l'usage, du recours aux psychédéliques.
Bah, aujourd'hui, en tout cas, l'état actuel des connaissances, c'est que les études sont en cours et que pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'autorisation d'utiliser un médicament en soins courants, il faut faire des études qu'on appelle des études de phase 3 et qui recrutent plusieurs centaines de patients afin de vérifier que bah, cette fameuse balance bénéfice-risque, elle est bien favorable à grande échelle. Donc on en est là.
Donc on ne sait pas encore tout sur les psychédéliques tout de même.
On ne sait pas encore tout, absolument. Et donc, en fait, on est plutôt dans une situation où certains pays ont pris le parti devant les résultats préliminaires, de rendre disponibles ces traitements, alors même qu'ils n'ont pas encore fini le cheminement du médicament tel qu'il il se passe habituellement.
Donc ils prennent objectivement un risque en faisant cela ?
En tout cas, ils proposent une utilisation alors que les études n'ont pas encore permis d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est un parti pris qui, je pense, a été décidé en partie parce que, on le disait tout à l'heure, il y a effectivement un état des lieux des troubles psychiatriques, de la détresse des patients qui peut justifier qu'on aille un peu plus vite en se disant bah, là, il y a vraiment des personnes pour qu'on n'arrive pas à aider et donc on va débloquer cet usage compassionnel, c'est-à-dire au cas par cas des psychédéliques. C'est par exemple ce qui se fait en Suisse depuis 2014, hein, donc depuis un bon moment maintenant. Mais c'est des sortes de chemins un peu parallèles et en tout cas qui ne suivent pas le chemin habituel du développement du médicament.
L'autre frein qui est mis en avant, Vincent Verroust, d'une manière régulière là encore, c'est que ces thérapies sont coûteuses parce qu'elles exigent notamment une équipe thérapeutique autour du patient, autour de la personne qui prend ces substances, une équipe importante. Hein, l'expérience peut parfois durer 10, 11, 12 heures. Il faut parfois 2, 3, 4, 5 personnes autour de la personne, du patient. Donc c'est coûteux en temps humain.
Certes, c'est coûteux en temps humain, mais dans le cas de la psilocybine, par exemple, c'est une substance qu'on ne peut pas breveter. On la trouve dans le monde vivant. Des procédés de synthèse sont dans le domaine public. Donc il y a aussi certains avantages économiques à cela.
Il n'y a pas d'enjeu financier, vous voulez dire, directement lié à la molécule aujourd'hui?
C'est-à-dire, si quelques prises suffisent pour avoir des résultats comparables à une prise quotidienne d'une molécule brevetée produite par une firme pharmaceutique, il me semble qu'économiquement, au contraire, ce serait très intéressant. Je rappelle aussi que la dépression, c'est l'une des principales causes de l'absentéisme au travail. Donc si on regarde vraiment pour des raisons purement économiques, on aurait peut-être très intérêt aussi. Et puis je pense même que c'est une opportunité fantastique pour un service public de la santé et du soin d'avoir des molécules qui ne sont pas brevetables, dont on pourrait faire des génériques. Alors ce n'est pas ma spécialité, hein, l'économie du monde pharmaceutique, mais bon.
Lucie Berkovitch, sur la dimension du coût justement que ces thérapies peuvent potentiellement représenter.
Bah oui, il est vrai que mobiliser des soignants toute une journée auprès d'un patient, c'est coûteux. Et c'est un choix d'autant plus difficile, j'allais dire, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes vacants dans les hôpitaux psychiatriques et que donc on est plutôt en sous-effectif pour pouvoir être auprès des patients. Donc ça voudrait dire détacher des gens pour un patient au détriment des autres, parce que tout se fait en cercle fermé. Donc c'est vrai que c'est pas un choix qui est facile. Après, je rejoins Vincent, en tout cas, sur l'idée que un traitement, s'il est efficace et quand bien même il nécessite des investissements initiaux qui sont importants, ça donne assez envie de pouvoir soulager des personnes en se disant qu'elles vont peut-être pas avoir besoin de revenir à l'hôpital, elles vont peut-être pas avoir besoin de prendre un traitement tous les jours. Et en fait, c'est des calculs qui sont assez complexes, mais dont on se dit que s'il y a un coût d'entrée qui est important, il peut aussi y avoir un désengorgement des hôpitaux in fine si ces thérapeutiques s'avèrent aussi efficaces qu'elles en ont l'air dans l'état actuel des connaissances.
Bon, dans le même temps, que pensez des retraites psychédéliques qui sont proposées par beaucoup d'entreprises privées qui proposent de voyager à l'autre bout du monde pour tenter de prendre certaines de ces substances dans des contrées lointaines, loin des protocoles médicaux et dans des conditions parfois de sécurité qui laissent à désirer, Vincent Verroust?
Alors déjà, si ça se fait loin de chez soi, c'est peut-être pas une excellente idée du point de vue du changement climatique et de la nécessité de faire des allers-retours en avion. Si on peut faire ça près de chez soi...
Vous voulez faire dans la campagne française, vous voulez dire?
Oui, mais alors là, pour le coup, si vous voulez qu'on parle des risques, la Société Psychédélique Française, l'association que je peux aussi représenter ici, a émis des recommandations face à quand même beaucoup de témoignages de pratiques, à risque, quoi. Notamment des personnes qui peuvent s'improviser thérapeutes de soins de santé mentale sans formation. C'est quand même relativement risqué. Alors, pour la plupart des gens, ça se passe bien, parce que je rappelle, comme l'a dit ici, les risques sont faibles, les accidents sont rares, mais ils se produisent quand même. Donc, il me semble, quand on a des problèmes de santé mentale à régler, mieux vaut se présenter à des professionnels. Après, pour des questions d'exploration personnelle, d'exploration intellectuelle et philosophique, bon, pourquoi pas, mais encore, ça comporte des risques, quoi. J'invite les personnes qui seraient prêtes à le faire à se renseigner sur les risques, par exemple en allant sur le site de la Société Psychédélique Française.
Il y a des risques et des dangers, effectivement, liés à la qualité, au dosage des substances, à l'évaluation des contre-indications, aux antécédents psychiatriques. Là aussi, en tant que médecin, Lucie Berkovitch, comment on tente quand même d'encadrer ce type de retraite qui est une véritable mode aujourd'hui, hein, parmi certaines tranches aisées, il faut le dire, hein, de la population française?
Moi, je pense que le défi principal, c'est celui d'informer les personnes des risques et de la façon dont elles peuvent les minimiser, c'est-à-dire en effet de connaître le mieux possible son profil personnel et les risques qui peuvent être associés à une vulnérabilité individuelle, le fait que il y a certains médicaments, par exemple, qu'il faut pas mélanger avec les psychédéliques, qu'en effet, on peut tomber sur quelqu'un qui peut être mal intentionné, qui a des enjeux financiers qui, je pense, suscite toujours un peu de méfiance. Alors peut-être parce que je travaille pour le service public et que ça me paraît toujours un peu étrange de demander des sommes considérables à des personnes qui sont en situation de détresse psychique. Il y a pas mal d'éléments qui sont des éléments de vigilance et effectivement il me semble très important de se renseigner au mieux pour, si on est tenté de faire ça, en tout cas le faire dans les conditions les moins risquées possibles.
Vincent Verroust.
Oui, c'est une des actions de la Société Psychédélique Française, c'est d'essayer de développer une culture de la réduction des risques, notamment à travers un manuel de réduction des risques qui existe, et une culture d'usage responsable. Il s'agit d'une substance psychotrope, elle comporte des risques, mais si on la compare à d'autres substances psychotropes, les risques sont quand même relativement faibles. Et je voudrais la comparer par exemple à l'alcool. L'usage pour soi-même et pour la société, et ça c'est publié dans des revues médicales, sont beaucoup plus faibles. Donc ça pose la question de l'acceptabilité sociale des psychotropes. Quels sont ceux qu'on tolère, quels sont ceux qu'on ne tolère pas? Et c'est quelque chose qui pourrait peut-être bouger avec les évolutions de la société.
Je reviens, Lucie Berkovitch, sur les résultats des études à venir. À quelle échéance peut-on espérer avoir un état de la connaissance scientifique à jour et objectif qui permettra ou non de prendre des décisions politiques dans ce domaine?
Actuellement, donc, on est en train de terminer la participation à une étude clinique à l'hôpital Sainte-Anne. Donc, c'est une étude, on est un centre parmi d'autres centres sur l'évaluation de la psilocybine dans la dépression résistante. Donc là, on a fini les inclusions, c'est-à-dire qu'on ne fait plus rentrer de nouveaux participants dans cette étude, mais on continue le suivi des patients qui ont été inclus dans cette étude avec des résultats pour l'instant qui ne sont pas disponibles, puisqu'il faut finir ce suivi, qu'on n'a pas la visibilité sur l'ensemble des centres. Je pense qu'il va y avoir, il y a à peu près encore une année de suivi et un petit peu moins maintenant, et ensuite l'analyse des résultats qui va prendre encore une année. Donc on est quand même à l'échelle de plusieurs années pour pouvoir avoir ces résultats disponibles. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses à découvrir et on mène aussi d'autres études qui justement vont dans la finesse de par exemple de la place de cette expérience ou de ses caractéristiques et ce en quoi elle peut aider les patients ou pas, ou d'autres enjeux peut-être plus scientifiques.
Merci beaucoup à vous deux de ces explications et de ces éclairages. Lucie Berkovitch, psychiatre et chercheuse en neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vincent Verroust, docteur en histoire des sciences, chercheur post-doctoral à l'INSERM, président de la Société psychédélique française. Merci d'être venu ce soir à Question du soir. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane Devancet, Stéphanie Villeneuve, Maud Yaïch, Louise Morfouas et Juliette Mouelic à suivre après le journal. On va faire de l'histoire et répondre à une question. Pourquoi sommes-nous obsédés par ce que nous mangeons ?